Bonsoir. Plusieurs dégâts signalés à travers le pays suite aux pluies qui se sont abattues ces derniers jours. À Calais et au sud Kivu, par exemple, plus d'une cinquantaine de morts et de disparus ont été enregistrés. À Kinshasa, plus d'une centaine de maisons sont menacées d'effondrement. Quelle analyse faire de cette situation? Que faire pour éviter ce genre de drames? C'est le thème de Dialogue entre Congolais de ce mercredi 29 octobre 2014. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour les débats Franck Diongo, député national de l'opposition et président du parti politique Mouvement Lumumbiste Progressiste, MLP. Il est ingénieur en construction. Monsieur Diongo, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Deschon Ngandou, architecte et expert en matière d'ouvrage. Monsieur Deschon Ngandou, bonsoir.
Bonsoir, madame la journaliste.
Et Anderson Kabongo, qui va nous rejoindre dans un tout petit moment. Il est chef de division chargé des études opérationnelles au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Merci de nous suivre partout en RDC sous la fréquence FM. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Ces derniers jours, la pluie s'est abattue sur plusieurs villes de la RDC, notamment Kinshasa, Lubumbashi, Kisangani et Bukavu. Cependant, les conséquences se sont plus fait sentir sur les villes de Bukavu et Kinshasa où la pluie a fait des dégâts, comme nous l'explique Berry Franklin Luchaka.
Les pluies torrentielles qui se sont abattues ces jours-ci en RDC ont causé malheur. Des pertes en vies humaines aux barricades des grandes routes sont les principaux dégâts. À Bukavu, par exemple, d'énormes dégâts sont signalés à Mwenga, dans le groupement de Bashimwenda-Mayou, en chefferie des Basile où près de 650 ménages sont sans abri lors de la pluie torrentielle accompagnée des orages qui s'est abattue durant 3h30 dans la soirée d'hier mardi. 68 maisons ont été détruites totalement et plusieurs dizaines d'autres ont été touchées partiellement. 4 églises et 3 écoles dont l'épée Boutézi ont été détruites et leurs toitures emportées. Côté pertes en vies humaines, le bilan qui n'est que provisoire fait état d'une cinquantaine de morts et de plusieurs disparus selon le vice-président de la société civile de Calais dans différents villages du groupement de Mbinga Nord où ces pluies se sont abattues. À Kinshasa, l'avenue des Huileries n'a pas échappé aux dégâts. Pendant plusieurs heures dans la matinée de ce mardi, les eaux ont envahi la chaussée, le marché situé sur cette avenue et les rues de la commune de Lingwala. Là où ça inquiète, c'est le quartier Kojelos, non loin de l'université de Kinshasa, où plus d'une centaine de maisons sont menacées d'écroulement, comme l'explique cet habitant joint par téléphone.
Il manque d'entretien des caniveaux. Les eaux maintenant cherchent par où entrer, ils entrent dans les parcelles des occupants de Kojelos et continuent maintenant à faire monter l'érosion qui s'était déjà annoncée. Il y avait 3 types d'érosion, dont l'une est très dangereuse qui risque d'emporter même les quartiers. Il y a eu mort d'hommes passés à cause de pluie.
Face à toutes ces catastrophes, plusieurs observateurs affirment que cette situation remet à la surface la question de l'urbanisation des villes en RDC.
Merci Berry Franklin Luchaka. La réalisation me signale que M. Anderson Kabongo est en ligne. M. Kabongo, bonsoir. M. Kabongo, est-ce que vous m'entendez? Alors, je crois qu'on a un problème de ligne avec la ligne de M. Kabongo, qui est chef des divisions chargées des études opérationnelles au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Franck Diongo, vous êtes avec moi dans ce studio. Vous êtes député national de l'opposition et président du parti politique Mouvement Lumumbiste Progressiste, MLP. Vous êtes ingénieur en construction. Plusieurs dégâts signalés à travers le pays suite aux pluies qui se sont abattues ces derniers jours. On va aller au sud Kivu, à Calais, avec ce drame. On compte plus de 50 morts et plusieurs disparus après cette pluie torrentielle dans cette province. Un mot par rapport à cette situation.
La première chose, c'est de présenter ma compassion, ma solidarité à toutes ces victimes. S'il faut donner un élément d'analyse, c'est clair. La première lacune, c'est l'absence d'un plan directeur d'aménagement du territoire, un plan général pour le pays ou province par province. La situation du pays a quelle difficulté? La République démocratique du Congo a un déficit de 240 000 logements par an, ce qui fait en 5 ans 1 200 000 logements de déficit. Ceci dit, il se pose un problème qui s'ajoute. 1. La mauvaise gestion des villes et puis des l'extension des bidonvilles. Une étude qui a été menée en 2006 a démontré que la République démocratique du Congo a 400 000 bidonvilles. Et lorsque nous faisons une étude approfondie sur les bidonvilles, vous allez trouver que 95% des constructions sont précaires et 5% des sites sont à risque. Donc 5% des maisons construites à sites à risque et 95% bien entendu de constructions précaires. Les études ont démontré que 81% des Congolais ne sont pas à l'aise de leurs conditions de logement. Vous prenez Awacha par exemple, dans la province orientale, vous allez trouver une case de 3 mètres carrés où 9 personnes sont logées là-bas. À Kinshasa, vous allez prendre la commune de Kinshasa, où une maison de chambre et salon, vous trouverez 9 personnes et quand il pleut, tout le monde dort debout. Cette étude démontre que le désastre est provoqué par l'occupation des sites à risque. Qu'est-ce qu'on appelle le site à risque en fait? Les sites à risque sont des sites là où on a construit, dans des sites où c'est inondable, de deux, où on peut avoir l'ensablement ou encore l'érosion ou les glissements des terres. Alors tout cela est fait parce que au niveau, sur le plan urbanistique même, en RDC, l'occupation des terrains est sous forme d'espèces, d'espaces nus, c'est-à-dire non viabilisés. Et lorsque les gens construisent, il n'y a aucune assistance, il n'y a même pas d'infrastructure d'accompagnement. Donc, généralement, en fait, qu'est-ce qu'il faudra comprendre par là? Vous n'avez pas une politique programme spécifique d'occupation d'espace. Donc, autant d'éléments d'analyse qui démontrent l'absence, en fait, d'une vision correcte qui permet de garantir, de sécuriser les occupants avant et pendant qu'ils construisent. Et c'est qu'est-ce qu'on a...
Mais est-ce que la faute incombe seulement au gouvernement par rapport à ces constructions anarchiques dont vous parlez?
Pardon?
Je dis, est-ce que la faute incombe seulement au gouvernement par rapport aux constructions anarchiques dont vous parlez?
Parce qu'en fait, il faut combler les déficits parce qu'il y a un manque d'aménageurs fonciers, tant public que privé. Il n'existe pas. Première difficulté. Deuxième difficulté, il n'y a pas un cadre ou un mécanisme approprié pour les constructions. Il y a également le respect de la réglementation existante. Il est vrai que la réglementation en matière d'humanisme, c'est la loi, c'est avant l'indépendance. Hein? Mais il y a quand même une réglementation qui existe et qu'on ne respecte pas.
Et puis, que la population ne respecte pas.
Non, d'abord l'État ne sait pas faire respecter. C'est la faute en fait. La faute ici, c'est incombe à l'État. Je vous ai dit qu'il y a un déficit de politiques et programmes spécifiques d'occupation d'espace. Il n'y a pas également une politique programme de développement en milieu rural. Et même en cas de catastrophe, il se pose également l'absence d'une politique de protection sociale. Donc, vous n'avez pas aujourd'hui 100 personnes et 200 personnes tombent dans une sorte de catastrophe. L'État n'a pas un moyen urgent d'intervenir. Il n'y a pas une politique d'intervention en cas de catastrophe, que ce soit naturelle ou humanitaire. Donc tout ça en fait, c'est l'échec d'un gouvernement dépourvu de vision, dépourvu d'innovation et de créativité. Donc la population, que ce soit sur le plan humanitaire, sur le plan de l'habitat, sur le plan de la sécurité, la population est abandonnée. C'est ça la difficulté que nous avons au pays. Donc ici en fait, il n'y a pas un programme ou un plan directeur d'aménagement du territoire, que ce soit sur le plan général ou sur le plan province par province. Lorsqu'on laisse la population construire dans les sites à risque, je vous ai dit que là, vous êtes dans les sites à risque, je vous ai dit, il y a les sites où on trouve l'inondation, les sites où on peut avoir un glissement des terres, les sites où on peut avoir beaucoup d'ensablement. Alors tous ces sites-là, on le laisse. Ça veut dire que la population qui ignore, qui sont dans des sites en difficulté, parce que je vous ai dit qu'il y a la multiplication des bidonvilles, et dans la multiplication des bidonvilles, au regard de la pauvreté, le problème est lié à la pauvreté. À Kinshasa par exemple, la ville de Kinshasa a plus de 250 têtes d'érosion. On ne vous dira pas que pendant 5 ans, ils ont combattu combien de têtes d'érosion? Il n'y a pas.
Alors, monsieur Anderson Kabongo est avec nous en ligne. Il va répondre à toutes ces questions. Monsieur Kabongo, est-ce que vous m'entendez?
Allô, oui.
Voilà, je rappelle que vous êtes chef de division chargé des études opérationnelles au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Nous parlons des dégâts causés par les pluies de ces derniers jours à Calais. Plus d'une cinquantaine de morts et des disparus ont été enregistrés. À Kinshasa, plus d'une centaine de maisons sont menacées d'effondrement. Alors, nous sommes dans ce studio avec M. Franck Diongo, qui est député national de l'opposition et président du parti politique Mouvement Lumumbiste Progressiste MLP. Il est ingénieur en construction. Il estime que il explique cette situation par un manque d'un plan d'aménagement du territoire.
Oui, je peux répondre à ces mots. Les villes congolaises d'une manière générale, et la ville de Kinshasa particulièrement, sont des villes que nous pouvons appeler coloniales. Ces villes-là existent depuis une certaine époque, et comme vous le savez, comme nous le savons, l'urbanisme, une ville, elle naît, elle grandit et elle meurt. Donc les plans des villes, de nos villes actuelles existent, les plans existent, elles sont certainement vieilles, mais il y a des efforts qui se font depuis un certain temps pour les actualiser, les adapter, et c'est un peu ce que je peux dire à ces stades ici.
Mais comment vous expliquez cette situation avec tous ces dégâts qu'on enregistre aujourd'hui après toutes ces pluies?
Bon, il existe en urbanisme ce que nous appelons les zones des non-édificandi, c'est-à-dire des zones que les plans actuels qui sont en vigueur, il était prévu dans différentes zones, dans différents plans, ces espaces-là, qu'on appelle des espaces des non-édificandi. Mais on constate aujourd'hui que les gens, la population, par manque certainement des logis, se donnent le luxe d'aller occuper ces zones des non-édificandi.
Mais
à leur risque et péril.
Mais est-ce que la population va occuper ces zones-là seule comme ça, sans l'autorisation de l'État?
En tout cas, madame, je peux vous confirmer, sans peur d'être contredit, qu'il y a des gens comme ça qui occupent librement des zones comme ça, sans autorisation de l'État. Il n'y a pas longtemps, nous étions dans une mission vers Mitendi, où nous étions allés penser les gens qui occupaient les flancs des collines. Et nous avions fait la ronde, on a enquêté, on a recensé. La plupart de ces gens qui occupent ces espaces-là les occupent sans aucune autorisation. Donc il y a certainement la responsabilité de la population aussi qui prend le risque d'aller occuper ces zones-là non autorisées.
Alors, donc pour vous, la responsabilité, en fait, c'est la population qui est responsable de tout ce qui lui arrive.
Je disais que les zones de non-édificants sont prévues dans les plans. Il y a les zones de servitude, il y a des zones de non-édificants qui ne doivent pas être occupées. Mais de temps en temps, nous constatons que les gens, ils vont occuper ces espaces-là sans aucune autorisation. Donc c'est la responsabilité de la population, s'établit aussi à une certaine mesure.
Et là, à vous entendre, Monsieur Anderson, on a l'impression que l'État est finalement faible, sans force pour demander à la population et dire à ce que la population n'habite pas ces zones à risque.
Il y a ce que nous pouvons appeler la pression démographique. La pression démographique existe, c'est une réalité. C'est pas seulement une réalité congolaise, mais c'est en fait cette pression démographique qui pousse les gens à aller occuper ces zones-là. C'est ce que je suis en train de soutenir. Donc la pression démographique est là. Les plans qui doivent être étudiés, comme je vous ai dit avant, la ville naît, elle grandit, elle meurt. Donc nos villes prennent de plus en plus de l'ascension, disons, de l'ampleur qu'il fallait, et en principe, que les rythmes de production des plans et de production de l'espace suivent aussi, mais les rythmes de production des plans pour la gestion de l'espace et le rythme n'est pas proportionnel, si je peux me le permettre de dire, par rapport au rythme de la pression démographique dans nos villes.
Alors, donc, c'est ce qui, oui. Alors vous dites qu'une ville naît, grandit,
elle grandit et elle meurt.
Alors, prenons le cas de la ville province de Kinshasa. Elle est à quel niveau elle vit? Elle grandit ou elle est en train de s'acheminer vers la mort?
La ville de Kinshasa, comme vous le, nous le savons, généralement, c'est une ville qui a pris aujourd'hui, elle est dans ses dimensions actuelles, on parle de plus de 10 millions et 10 000 kilomètres carrés, la superficie de la ville de Kinshasa. Donc c'est une ville qui s'est étendue, elle est devenue tellement grande, et les plans, il y a récemment la ville de Kinshasa a initié un projet, les schémas d'orientation stratégique de l'agglomération qui doit justement poursuivre cette évolution-là de la ville de Kinshasa. Donc il y a la croissance de la ville va très rapidement et il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour encadrer malheureusement c'est pas dans les mêmes proportions avec la pression démographique.
Alors parlons de toutes ces inondations, les longs des avenues, comment on explique ça alors qu'il n'y a pas très longtemps plusieurs travaux ont été faits sur les routes de Kinshasa?
Les inondations sur les routes de Kinshasa. C'est ça bien, c'est bien ça votre
oui,
question.
Oui, monsieur Anderson.
Oui. Allô?
Oui, je vous écoute, monsieur Anderson.
Allô?
Allô, bon, je crois qu'on a un petit souci avec la ligne de M. Anderson. M. Deschaux-Ngandou, vous êtes architecte et expert en matière d'ouvrage. Quelle est votre analyse par rapport à cette situation?
Merci beaucoup. Un petit correctif, expert en maîtrise d'ouvrage.
Merci.
Ok, pour revenir des premières interventions de mes co-débatteurs de cet après-midi, de ce soir j'allais dire, ils ont pratiquement dit les mêmes choses mais dans des termes différents. Je voudrais, en fait, pour compléter ou plutôt enrichir les débats, dire que vous savez que à chaque cause, il y a des effets. Donc dans toute chose, il y a ce qu'on appelle la loi des causes à effet. Pourquoi nous sommes arrivés à cette situation où des inondations, chaque fois qu'il y a des pluies, débordent et créent des catastrophes? J'ai pris en passant les propos de l'intervenant de tout à l'heure, M. Anderson Kabongo, qui a bien défini les limites de la ville de Kinshasa. Elle s'étend en termes chiffrés à 9 965 km². C'est ça la superficie géographique de la ville de Kinshasa. Mais qu'est-ce qui se passe comme problème? Comme chaque ville, la ville, on la conçoit, on la dessine, comme on le fait pour une villa ou fait pour un édifice. Mais le schéma directeur, le plan directeur de cette ville n'a été établi que pour plus ou moins 20% de sa superficie. C'est pour dire que les 80% de sa superficie n'est pas définie, n'est pas dessinée par les urbanistes. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a maintenant des quartiers spontanés qui naissent. Ou plutôt sur d'élever des décisions politiques, il y a des autres quartiers qui ont pris naissance. Parce qu'il y a eu ceci, faisons cela, parce qu'il y a eu cela, faisons ceci. Alors la conséquence, c'est quoi aussi? C'est-à-dire que on crée des quartiers spontanés sans pour autant respecter les normes ou plutôt les préalables qu'il faut avant de pouvoir mettre en place une agglomération. Qui dit agglomération suppose qu'il faut l'habiter, les circuler, les loisirs, les travails, il faut créer des routes, il faut assainir cet environnement dans lequel vous voulez loger les gens. Mais tant que ces préalables ne sont pas définis, il faut se dire que ces agglomérations-là ne revêtent pas généralement les formes ou plutôt les colorations ou plutôt les normes de ce qu'on veut dire des quartiers modernes ou des agglomérations digne d'être habité. Alors, à côté de ces problèmes d'insuffisance, de dessin ou plutôt d'insuffisance d'expansion, d'insuffisance des plans directeurs de la ville, il se pose un autre problème. Ça, c'est un problème généralement lié aux villes africaines. On a constaté que ces villes du continent africain s'urbanisent plus rapidement que celles des autres continents, par exemple. En 1960, ça c'est à titre illustratif, il existait en Afrique des grandes villes qui avaient plus de 1 million d'habitants. J'ai cité le Caire, j'ai cité Lagos. Mais actuellement, il y a plus de 50 villes africaines qui comptent plus de 1 million d'habitants. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une urbanisation plus rapide, mais les conséquences logiques ne se sont pas suivies tout de suite là. C'est-à-dire que les rattrapages de la part des pouvoirs publics n'est pas venu tout de suite. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre le phénomène des villes avec des bidonvilles. Et l'effort que l'un des objectifs des millénaires est en train de se donner, c'est de pouvoir éliminer ces bidonvilles dans des villes. Mais ce n'est pas facile, il faut compter avec beaucoup d'efforts et beaucoup de bonnes volontés de la part des pouvoirs publics. Mais est-ce que dans les cas d'espèce chez nous, on lit cette volonté-là? Est-ce qu'on lit cet effort-là comme M. Cabon est en train de le souligner? Il parle des efforts qui sont en train d'être fournis. Mais à mon humble avis, ces efforts-là ne sont pas manifestes, ces efforts-là ne sont pas visibles. Donc, si je peux me résumer, il y a le chemin directeur, ce qui constitue le dessin de toute une ville, qui a été dessiné en son temps par rapport à la taille de la population qui existait à cette époque-là. Pour les cas de la ville de Kinshasa, c'est le 20% seulement qui est urbanisé en termes des croquis.
Et les 80%
sont occupés de manière anarchique.
Merci.
Et puis, le deuxième problème, c'est cette croissance démographique qui est allée plus rapidement et qui a fait que les pouvoirs publics aujourd'hui ne fournissent pas les moyens nécessaires pour pouvoir faire un rattrapage. Les moyens nécessaires, c'est quoi? C'est les logements décents. Il y a une insuffisance criante des logements dans la ville de Kinshasa, c'est les transports. Nous avons vraiment une carence énorme en termes de véhicules, des engins pour les transports.
Merci, Monsieur Duchaud. On vous redonne la parole tout à l'heure. Franck Diongo, apparemment, vous n'êtes pas d'accord avec l'analyse de Monsieur Anderson Kabongo, qui, lui, responsabilise d'abord la population.
Madame, je crois que je vais me répéter de manière beaucoup plus claire. Voilà ce que je vous avais dit. Il y a l'inexistence d'un plan directeur d'aménagement de la ville, un plan adapté. Nous ne sommes pas dans l'histoire de l'aménagement de la ville. Un État ne se plaint pas, madame. Nous devons avoir un plan adapté à la réalité. J'avais commencé par vous dire que le déficit en logement est de 240 000 logements par an. En termes de mandature, c'est 1 million 200 000. Et je vous avais démontré qu'autour des grandes villes, pas seulement que vous avez un déficit à logement, mais autour des grandes villes, il y a 400 000 bidonvilles, une étude menée en 2006. Dans les 400 000 bidonvilles, lorsque vous gouvernez, vous devez savoir qui habite dans les bidonvilles et quels sont les contextes qui ont facilité, multiplié les bidonvilles. Je vous ai dit que ce sont les populations vulnérables qui habitent là-bas. Et ces populations vulnérables habitent, madame, dans ces terrains-là, à risque. Dans ces bidonvilles, je vous avais dit, 95% des maisons sont précaires, constructions précaires. Et 5% sont dans des milieux à risque. Et dans les terres à risque, parce que c'est dans les endroits à risque qu'il y a les désastres. Vous avez l'inondation, vous avez les érosions, vous avez les ensablements, vous avez les glissements des terrains. Donc, l'État doit prévenir sa population et amener des réponses. À Kinshasa, à Congelos, quand vous allez à Cité Verte, vous trouverez que ce sont des terrains accidentés. Qu'est-ce que l'État fait pour amener des réponses? Parce que l'occupation des terrains, je vous ai dit qu'elle suit le plan urbanistique. L'occupation des terrains se fait sous forme d'espace nu, c'est-à-dire non viabilisé. C'est ça qu'ils ont dit. Non viabilisé. Et qu'est-ce que l'État a amené? Et même lorsqu'ils occupent des terrains non viabilisés, donc, il n'y a aucune structure d'assistance. Et on ne les assiste pas. L'État n'a aucun service qui assiste la population là où ils ont occupé des terrains à risque. Il n'y a aucune infrastructure d'accompagnement.
Mais M. Kassongo a parlé, M. Kabongo plutôt a parlé d'une mission qu'ils ont effectuée sur
Madame,
qui est aussi un site à risque.
Mais, madame, voilà ce que je suis en train de vous dire. Ça, ce sont des études scientifiquement valables et vérifiables. Quand vous voyez l'étendue des drames et même des désastres, vous prenez toutes les provinces dans leur globalité. Vous trouverez, soit il y a désastre parce qu'il y a érosion, Soit qu'il y a des désastres parce qu'il y a inondation, soit il y a des désastres parce qu'il y a glissement de terre. Donc, quelle est la politique générale? Et même dans les cas où il y a des désastres et catastrophes, vous n'avez pas une politique de protection sociale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous n'avez pas les ministres des conditions humanitaires ou affaires sociales qui a un fonds immédiat pour aller intervenir. J'ai déjà posé la question au ministre des affaires sociales, pardon, des affaires sociales. Il n'existe pas un fonds aujourd'hui, il y a scandale, que le ministre des affaires sociales part aujourd'hui intervenir demain. Et là, lorsqu'il y a des gens meurent dans des lacs, on peut avoir même une situation de contamination. Ça peut provoquer le drame humanitaire. Vous n'avez pas au ministère de la Santé une urgence, les fonds d'urgence comme ça.
Alors, on va prendre rapidement Franck Djongo pour vous. Franck Djongo, cette réaction qui nous vient de Bukavu, au sud Kivu.
À moi, victime de la ville de Bukavu, province du sud Kivu. Nul n'ignore que les catastrophes naturelles existent partout au monde, mais en RDC, souvent, elles sont causées par des constructions anarchiques sur des sites impropres, aux vies et aussi des autorités ayant l'urbanisme et l'habitat dans leurs attributions, et qui d'ailleurs octroient ces parcelles à la population. Au Congo, on constate les conséquences au lieu de prévenir comme tel est le cas sous d'autres pieds. Bien au-delà, on observe une léthargie de la gestion de ces catastrophes, car ça fait déjà 5 jours que ces incidents ont eu lieu, mais malheureusement, on n'a jamais su l'autorité nationale pour intervenir.
Cet auditeur vous rejoint un peu dans votre réflexion. Au Congo, on constate les conséquences au lieu de les prévenir.
Oui, exactement. Et je vous ai dit, madame, que vous n'avez même pas d'aménageur foncier, tant public que privé au pays. Il n'y a pas. Il se pose également un problème de l'absence d'un cadre et de mécanismes approprié pour la construction. Tout ça, ce sont des lacunes qui relèvent de la responsabilité de l'État. Quand j'en parle de ressources, vous allez trouver également qu'il y a insuffisant de ressources pour une meilleure gestion. Alors tout ça, c'est autant d'éléments qu'il faut noter, qu'il faudra retenir. Donc, d'une manière claire, c'est l'absence d'une politique efficace, cohérente en matière d'habitat. C'est tout.
Merci, Franck Djongo. Monsieur Anderson Kabongo, on va prendre pour vous cette réaction qui nous vient de Kinshasa.
Pierre Kazadi, depuis Kinshasa, dans la commune d'Engaliema. Tout cela est dû au manque de la politique d'urbanisation de nos villes. Nous voyons aujourd'hui les entreprises chinoises partout en train d'élargir les routes, ce qui est une bonne chose. Mais la canalisation des eaux de pluie pose un grand problème pour eux. Pourquoi notre gouvernement ne peut pas utiliser nos ingénieurs qui finissent chaque année à l'INBTP ou bien les associer avec les Chinois? Le gouvernement doit consommer local, c'est-à-dire utiliser ses ingénieurs qui connaissent mieux notre système climatique.
Manque des politiques d'urbanisation de nos villes, M. Anderson Kabongo, selon cet auditeur.
Oui.
Qu'est-ce que vous lui répondez?
Je disais lors de la première intervention que parler de la manque d'une politique d'une manière générale n'est pas tellement exact. Il y a des efforts, je reviens encore là-dessus, j'ai dit qu'il y a des efforts certainement qui ne sont pas encore proportionnels par rapport aux besoins qui se présentent aujourd'hui, mais il y a quand même des efforts qui se font. J'ai parlé de la ville de Kinshasa, j'ai évoqué un plan qui est en cours d'étude. Un plan, les schémas d'orientation stratégique de la ville de Kinshasa, il y a quand même des efforts qui se font pas sentir
malheureusement.
Qui se font, vous savez, chaque secteur, moi je parle en tant que planificateur, en tant que urbaniste, les plans des villes, j'ai dit que les plans de vie d'abord ça ont une validité et une période de vie. Et au fur et à mesure que les problèmes se posent, les villes sont dépassées, comme je disais l'autre fois, les villes sont dépassées.
Mais vous parlez des efforts, c'est quoi ces efforts que vous êtes en train de mener justement?
J'ai parlé des études qui sont en cours, n'est-ce pas, qui entrent justement dans le cadre de cette politique ici de l'habitat dont fait allusion l'intervenant M. Pierre Kazadi d'Engaliema.
Alors il dit aussi que les Chinois sont en train d'élargir les routes, ce qui est une bonne chose, mais la canalisation des eaux des pluies pose un grand problème pour eux. Pourquoi notre gouvernement ne peut pas utiliser nos ingénieurs qui maîtrisent bien Kinshasa, la ville de Kinshasa, que de faire venir ces Chinois et les faire travailler voyez cela?
Bon, à mon humble avis, je pense que les ingénieurs congolais sont aussi utilisés de temps en temps.
De temps en temps?
Oui.
Pourquoi? Parce qu'on leur fait pas confiance?
Je disais que j'ai rencontré personnellement un ami avec qui on a étudié, un ingénieur, qui était sur un site en train d'étudier, de participer aux études avec les Chinois. Il y a aujourd'hui l'Agence congolaise des grands travaux, où on retrouve les ingénieurs, les architectes qui sont formés ici sur place, qui travaillent. Donc, c'est vrai qu'il y a des choses que nous dénonçons, que nous devons dénoncer, mais il y a aussi des choses positives qu'il faudra quand même de temps en temps souligner.
Mais il y a aussi des gens qui disent que les Chinois qui travaillent sous les routes n'ont pas bien fait leur travail. Ils ont un peu dérangé l'ancien plan de la ville. Je prends l'exemple de Kinshasa. Hein. Ils ont dérangé un peu l'ancien plan de la ville de Kinshasa en effectuant ces travaux de réhabilitation de routes ou construction des routes.
Bon, ils ont dérangé l'ancien plan, c'est justement c'est à quoi je reviens encore. J'ai dit que les plans doivent être s'actualiser au fur et à mesure. Donc les plans dont on fait allusion ici, c'est ces plans de 1968 ou c'est l'actuel qui est en cours d'étude. Donc il y a les plans, c'est bon de ces plans-là qui doivent être adaptés. Donc parler de déranger un plan qui est déjà caduque, Je trouve qu'il y a à boire et à manger dans tout ça.
Alors, monsieur Deschongandou, qui est expert, architecte, expert en maîtrise d'ouvrage, il est revenu sur la création des nouveaux quartiers, la création des quartiers spontanés sans aucune norme urbanistique. Et l'État laisse faire.
Effectivement, je crois que c'est toujours la même problématique. Effectivement, il y a des quartiers spontanés. Justement, ces gens qui vont occuper ces zones à risque, comme l'a souligné l'honorable. Donc, il y a des quartiers spontanés. Les gens vont occuper sans aucune autorisation. Et c'est les conséquences que nous sommes en train de crier, malheureusement. Donc, c'est un peu ce que j'ai dit.
Si c'est à Kinshasa, c'est difficile de contrôler tout ça. En province, ça doit être la catastrophe alors.
Non, mais c'est justement cette pression démographique-là. J'ai dit qu'il y a des efforts qui se font certainement, mais il faudra vraiment les redoubler, les remultiplier pour rattraper les retards qui est déjà accumulés. Des efforts se font dans ce sens-là.
Merci, M. Kabongo. Que faire pour éviter ce genre de drame? C'est la deuxième partie de notre émission. Participe à ce débat. Anderson Kabongo, chef de division chargé des études opérationnelles au ministère de l'Urbanisme et Habitat. Franck Diongo, député national de l'opposition et président du parti politique Mouvement Lumumbiste Progressiste, MLP. Il est ingénieur en construction. Et Deschongandou, architecte et expert en maîtrise d'ouvrage. C'est la deuxième partie de notre débat, M. Deschongandou. On va commencer par cette question qui nous vient de Vienne, qui s'adresse à vous.
Franck Mboni, à partir de Vienne en Autriche. À voir ce qui s'est passé, nous devons reconnaître que le système de canalisation des eaux de pluie pose problème dans beaucoup de coins de la ville de Kinshasa. À ces problèmes évoqués s'ajoute le manque de suivi et de rigueur dans les travaux dirigés par la voirie urbaine de la ville de Kinshasa. La voirie urbaine de la ville de Kinshasa doit encore améliorer la qualité de ses travaux et aussi la population ferait mieux de se montrer plus disciplinée en évitant surtout de faire de chaque canalisation des eaux de pluie des poubelles publiques où on peut aller tout jeter. Sinon, la ville de Kinshasa aurait de la peine pour se maintenir sur la liste des villes dites modernes de l'Afrique noire et aussi du monde.
Monsieur Deschongandou.
Je suis tout à fait d'accord avec l'intervenant de tout à l'heure. On n'a pas besoin d'un dessin pour comprendre la situation de nos villes de RDC et plus particulièrement de la ville de Kinshasa. Le tableau est très sombre, les bilans est au regard de tout le monde négatif. La preuve en est que nous sommes en train de débattre autour des inondations qui sont causées par les récentes pluies et il y a encore des pluies à venir. Aucune solution n'est envisagée, n'est mise en place jusqu'à ce niveau-là. C'est-à-dire que lorsqu'il faut bien penser une ville, lorsqu'il faut chercher à vouloir mettre une population en sécurité, il faut lui bâtir une ville durable. Nos villes ont vieilli, bien sûr. Elles exigent un rattrapage de la part de l'État. Elles exigent à ce qu'elles soient repensées. Cela n'est pas visible. C'est pour cela que je ne suis pas tout à fait d'accord avec M. Anderson lorsqu'il dit qu'il y a des efforts qui sont fournis. Les efforts, on a besoin de les sentir. Les petits peuples, la population primaire a besoin de sentir ces efforts-là dès par l'amélioration du vécu quotidien. On n'a pas besoin de trop de littérature, de séminaires, de colloques pour en fait arriver à des conclusions telles qu'on est en train de fournir les efforts. Ça, ce sont des problèmes pratiques qui exigent aussi des solutions pratiques qui doivent être vécues et qui doivent s'adapter à l'environnement dans lequel nous vivons.
Quelles sont ces solutions?
S'il vous plaît.
Quelles sont ces solutions?
Les solutions sont attirées autour de ces échanges qu'on a eu tout à l'heure. Monsieur Franck Diongo a parlé tout à l'heure là de l'absence des politiques d'urbanisation, de l'absence des politiques d'assainissement, de l'absence des politiques de ceci, de cela. Il faut remettre de l'ordre dans l'urbain. Il faut commencer quelque part par corriger, par en fait assainir. Parce que lorsque cela n'est pas fait, lorsque les bidonvilles continuent à exister, lorsqu'on ne sait pas assainir, raser pour reconstruire, pour reloger, pour redessiner les villes, on arrivera vraiment toujours, on tombera toujours dans ce genre de situation, de catastrophe en catastrophe. Donc, lorsqu'une ville vieillit, il faut un rattrapage, il faut, si je peux dire, une nouvelle urbanisation qui tienne compte de l'environnement, qui tienne compte de beaucoup de facteurs sans lesquels on ne saura pas bien vivre. Si j'ai pas ainsi dire pour ça.
Merci, Monsieur Deschaux Ngandou, honorable Franck Diongo. Quelles pourraient être les solutions pour éviter ces genres de drames à l'avenir? On a suivi Monsieur Deschaux Ngandou qui parle d'une nouvelle urbanisation. Et puis, il faut faire aussi les suivis dans les travaux dirigés par la voirie urbaine.
D'une manière d'abord générale, prenons les cas de la ville de Kinshasa. Vous prenez tous les tronçons autour du Palais du Peuple, boulevard Triomphal. Vous prenez au niveau du boulevard Lumumba, des Royales dépassées 24 novembre. Vous prenez la route de Villery. Quel est le problème? D'une manière urgente, c'est l'échec des marchés de Chinois. Parce qu'en fait, il s'est posé un problème qu'ils n'ont pas tenu compte. C'est le redimensionnement des réseaux d'assainissement. Lorsqu'on avait construit, la ville de Kinshasa, pour la ville de Gombe par exemple, il y avait un réseau d'assainissement qui canalisait les eaux de pluie et les eaux des toilettes jusqu'au fleuve. Donc il n'y avait pas de fosse septique dans la ville de la Gombe. Donc ici, lorsque les Chinois viennent élargir des routes sans redimensionner les réseaux d'assainissement, là vous allez trouver des caniveaux, des égouts et des collecteurs. Donc, on ne pouvait pas élargir des routes sans déjà préalablement étudier les réseaux d'assainissement, les égouts, les collecteurs, les caniveaux. Donc, aujourd'hui, si les Chinois ont élargi, ça crée beaucoup plus un nouveau problème d'évacuation de ces eaux de pluie, que techniquement on appelle les eaux de ruissellement. Donc, là, c'est un marché raté. Il faut reprendre. En urgence, il faut réétudier, redimensionner. Quand vous voyez les eaux de ruissellement, de toutes ces avenues que j'ai citées, à Willery par exemple, ça crée un problème très sérieux. On ne peut pas circuler quand il pleut. D'une manière urgente, c'est un échec. En urgence, il faut réétudier, redimensionner. Mais d'une manière générale, au pays, quelles sont les solutions? Première solution, il faut avoir une politique et programme parce que l'intérieur est beaucoup plus vaste le milieu rural est plus étendu que les villes. Il faut une politique et programme de développement en milieu rural. Il faut avoir une politique d'accompagnement, une mesure d'accompagnement. Il faut le respect de la réglementation. Il faut une politique et programme spécifique d'occupation d'espace. Il faut avoir des aménagères foncier, public et privé. Il faut avoir un cadre et un mécanisme approprié pour la construction. Donc, Tout ça, ça va se cadrer à travers une politique d'aménagement du territoire. Et aussi, il faut ajouter une politique de protection sociale en cas de catastrophe. À Kinshasa, je vous ai dit, 250 têtes d'érosion minimum. On ne peut pas vous dire qu'on a combattu 5 têtes d'érosion.
Merci, honorable Franck Dzongo. Il nous reste moins de 5 minutes pour mettre fin à cette émission. C'est aussi votre conclusion, monsieur Anderson Kabongo. C'est quoi la solution aujourd'hui, par exemple, pour tous ces quartiers sinistrés? Qu'est-ce que l'État va faire pour ces gens-là, pour ces quartiers-là? Je prends le cas de Calais, par exemple, au sud Kivu, et Kojelos, ici, à Kinshasa.
Bon, comme j'ai commencé à les soutenir depuis le début de mes interventions, c'est vrai, les gens, par pression démographique, sont allés, ils ont occupé ces espaces-là, mais c'est une population de ces pays, ce sont des Congolais. Je crois qu'il faut, dans le cadre de la solution, quand vous posez la question, moi je crois qu'en ce moment-là, il faut que tout le monde se mette ensemble pour trouver des solutions. Quand je parle de tout le monde, je n'ai pas des experts. L'honorable a tout à l'heure fait allusion aux aménageurs privés, tout ça, des experts, des scientifiques, des politiques aussi. Et même la population elle-même doit être consciente aussi. Donc, dans le cadre de la solution, je prône pour une solution concertée de tout le monde, des experts, des politiques, de la population.
Mais d'abord, pour ces gens qui sont dans des problèmes aujourd'hui.
Pour ces gens, quelqu'un qui va
habiter... Faut-il les délocaliser ou, je ne sais pas moi, qu'est-ce que l'État va faire?
Et je crois que les gens qui occupent des sites à risque comme ça, comme les sites que nous venons d'évoquer ici, l'État est en droit de les déplacer de ces sites, hein, les amener à un site où ils peuvent bien vivre et l'occuper sans beaucoup de problèmes.
Ce qui est quand même difficile.
Non, c'est déjà arrivé ici. Des gens qui étaient victimes des inondations, des eaux de pluie, on a déjà vu dans ces pays, l'État, les pouvoirs publics, les amènent vers l'est, la partie est de la ville. Donc, ça signifie que ça s'était déjà fait, ça peut se faire. Et dans le cadre de cette concertation, ça peut encore voir jour de telles opérations.
Alors, prenons aussi le cas de la ville de Mbujimayi. On sait que c'est une ville qui connaît aussi beaucoup de problèmes. Est-ce que dans ce cas-là, il faudra créer une nouvelle ville?
Le problème de la ville de Mbujimayi, c'est effectivement une ville qui a beaucoup de problèmes. Vous savez, c'était une ville minière, tout ça, tout ce qu'on a connu comme problème là-bas. C'est comme ce que j'ai dit encore. Les études. Effectivement, il faut aller étudier les problèmes. Parce que les solutions des villes, ce n'est pas la même solution pour une ville X que pour la ville Y. Donc, il faut les études, effectivement, qui peuvent prendre du temps. Et alors que nous sommes en train de rechercher...
Entre-temps, on aura toujours des catastrophes pendant que les études prennent du temps, comme vous le dites.
Non, c'est-à-dire qu'on peut prioriser l'intervention, la solution. Il y a l'urgence, comme l'honneur l'a dit. On peut parler du moyen terme et du long terme.
Alors, donc,
en conclusion, j'ai dit que dans les longs termes, il faut effectivement lancer des études pour étudier nos villes, nos espaces urbains, afin que leurs occupations soient quand même assez rationnelles.
Merci.
Voilà.
Merci, monsieur Kabongo. Monsieur Deschongandou, un mot pour conclure.
Vous savez, madame, j'ai toujours conçu l'État comme étant une grande société devant prendre en charge les autres petites sociétés. Les familles sont des petites sociétés qui sont censées être prises en charge par l'État qui constitue la grande société. Et on n'urbanise pas pour, on ne fait pas l'urbanisation pour le béton, pour les arbres, on fait pour la chair, pour l'être humain. Donc, c'est-à-dire que l'État doit tout faire, doit chercher des mécanismes, mettre en place des moyens et des voies pour arriver à créer des villes où l'homme doit se sentir à l'aise pour pouvoir s'épanouir.
Merci.
Nous sommes devant des fatalités, nous sommes devant des situations où les villes sont caduques, où en fait, beaucoup de choses ne marchent pas autour de la manière dont les villes au fait fonctionne actuellement.
Merci monsieur Ngandou. Merci monsieur Ngandou, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais qui m'a aidé à vous présenter cette émission, Alain Hung, Berry Luchaka, sur la supervision de Julien Niamouini. Merci à Alain Goy qui était à la prise de son au micro Kéline Kouté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.